Alter Ego, bonjour.
Je t'ai téléphoné, je sais quoi faire.
Ah bon? Pourquoi?
Pour te prévenir que je finissais assez tôt.
Ah bon? Il m'a rien dit?
Non, tu étais déjà parti.
Ah oui, je suis retournée voir le docteur Jivago.
Tiens. Ça ne t'avait pas emballé?
Ben non, mais tu vois, j'ai eu envie de le revoir. Je l'ai beaucoup mieux aimé cette fois-ci.
Ah! Merci, Brigitte. Pour une fois, tu n'éprouveras pas besoin de me raconter ce que tu as vu.
Ah, bah non. Ah.
Une scène de La femme infidèle de Claude Chabrol avec Stéphane Audran et Michel Bouquet. C'est Maurice René qui joue le rôle de l'amant. Un sujet vieux comme le monde que l'infidélité, un sujet qui prête à sourire quand il ne vous concerne pas directement, un sujet qui permet en tout cas de réfléchir à l'amour mode d'emploi. En théorie, nous voudrions tous être des castors, animaux fidèles au point que si l'on opère le mâle, si on le castre, sa femelle ne procréera jamais. Et puis il y a la pratique des jours, les lassitudes, les tentations, et c'est là que tout se complique. Avec nous ce matin, le psychiatre et psychanalyste spécialisé dans les thérapies de couple, j'ai nommé Serge Éphèse, et Christine Sagnier, auteure d'un livre intitulé « Infidélité », le pluriel est facultatif. C'est un premier roman. Vos questions, surtout ce matin j'imagine vos témoignages, au 01 45 24 7000 ou sur internet franceinter.com, rubrique Alter Ego.
Jardin de réséda mêlé de petits véreux. Longue de soir et d'été attablé sous la vie. J'ai rêvé d'y passer nos dernières années.
La maison sous les glycines, c'était Valérie Lagrange. C'est un album France Inter. Valérie Lagrange est en tournée. Elle sera notamment le 6 novembre au Bataclan à Paris et ce sera un concert France Inter. Elle parlait d'amour absolu là à l'instant dans sa chanson. Serge Fesse, bonjour. Vous y croyez, vous, à l'amour absolu ?
Oh, bien sûr que j'y crois à l'amour absolu comme tout le monde. Ce qui n'est pas sûr, c'est que ça doive durer toute une vie. Ça peut aussi, mais ça n'est pas toujours le cas. Mais l'amour, la passion, cet état fusionnel où on a l'impression d'être... de faire un avec l'autre, de faire corps avec l'autre, de partager toutes ses pensées, toutes ses émotions, toutes ses sensations, toute son intimité, ça existe et beaucoup l'ont rencontré, heureusement.
Ça existe, mais ça ne dure pas forcément. Alors comment vivre après avec une sorte de double aspiration ? C'est-à-dire d'un côté, on veut de la tranquillité, une espèce de sécurité, on est un peu dans un cocon, puis d'un autre côté, il y a un souffle de liberté, il y a d'autres aspirations qui...
C'est vrai, et c'est vrai que ces aspirations sont vécues de plus en plus difficilement par les couples parce qu'ils veulent tout à la fois. Ils veulent à la fois cette transformation de la passion en amour, comme vous disiez, plus sécurisant, plus quotidien, le partage, la douceur, la tendresse, le respect de l'autre. Et puis en même temps, cette excitation totale des sens qu'est la passion. Et Dieu sait qu'on est à une époque où l'excitation est de plus en plus nécessaire. Il faut toujours éprouver quelque chose et éprouver si possible quelque chose de fort. Et donc, de plus en plus se pose cette question de l'infidélité. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette aspiration tout à coup très brutale par quelqu'un qui embrasse complètement l'essence, qui crée cette passion ? Est-ce qu'on y cède ? Est-ce qu'on n'y cède pas ? C'est une question très contemporaine.
L'infidélité, les infidélités, puisque votre premier roman, Christine Sagnier, bonjour, s'intitule « Infidélité » avec le S entre parenthèses. Qu'est-ce qui arrive à ce couple que vous mettez en scène dans le livre ?
Ils sont quand même un petit peu au bout du chemin, on peut le dire comme ça.
Après 10 ans, ils vont quand même continuer sur ce chemin-là.
A priori, oui. Mais ils sont donc au terme de 10 ans de mariage.
De longues années de fidélité, écrivez-vous.
Oui, voilà. En fait,
ça leur a paru long ou c'était long ?
À elle, oui, je pense. Enfin, tout au moins, elle se rend compte après 10 ans que. Elle était fidèle plus à une idée. Elle a été fidèle à une idée, enfin son idée du mariage, et que elle se sent terriblement seule. Sa vie est vide et elle n'est plus regardée par son mari. Et puis elle croise un homme. Cet homme la regarde et voilà. Et c'est parti. Mais ce n'est en fait pour elle que ce ne sont que des instants en fait. Ce sont des corps à corps.
Avec des hommes différents.
Et
qu'elle ne revoit pas forcément, d'ailleurs.
Non, il n'y a pas, en fait, il n'y a aucune passion, ni amour, ni passion, aucun sentiment. Mais elle a l'impression d'exister, tout au moins, enfin, son corps existe, et par le plaisir, elle a l'impression d'être.
Et de combler un vide, finalement.
Et combler ce vide, enfin, le vide de sa vie. Et en fait, c'est assez, d'une certaine manière, assez terrible, parce que ce n'est qu'une illusion. À chaque fois, elle retombe après dans le même quotidien, avec finalement aussi la même amertume, souvent en constatant l'indifférence de son mari. Mais son mari, lui, est pris dans une sorte de routine. Il ne réfléchit pas, en fait. Il est pris dans son travail, son quotidien, et il ne s'arrête pas pour penser. Et jusqu'au moment où, après un accident de ski, il se retrouve cloué chez lui. Et là, les choses s'inversent. Il voit sa femme partir, ne sachant trop où elle va, mais il se pose pas trop de questions, en fait. Et puis, il se pose des questions sur ses enfants, qu'il ne voit pas grandir non plus, et sur sa maîtresse, que lui a. Et une maîtresse régulière, mais sans souci, en fait. Disons qu'il a casé tout ce petit monde dans des cases, enfin voilà, et chaque personne a sa place. Et tout va bien. Mais malgré tout, les choses lui semblent tout d'un coup bien compliquées, en fait. Le mensonge. Donc, il veut essayer de redresser un peu la barre. Et et peut-être aussi pressent-il que sa femme est déjà partie. Et ça, ça l'inquiète.
Philippe est en ligne. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors voilà, ce qui s'est passé dans ma vie les deux dernières années. J'ai rencontré une jeune femme il y a donc 2 ans à peu près, qui allait se marier, c'est-à-dire qui se mariait la semaine d'après, le premier jour où on s'est vu. Et on avait en fait, pour des raisons professionnelles, moyen de se voir à peu près tous les jours. Et donc pendant 6 mois, on a passé du stade d'amis au... un stade un petit peu plus sérieux, on a commencé à devenir amant, mais pas, enfin, amant sans avoir de relation physique, sexuelle, avant très longtemps. Et on s'est rendu compte, en fait, à sa surprise et à la mienne, qu'on est tombé complètement amoureux. Donc, je nous classerais dans la catégorie des passions amoureuses, et pas du tout, apparemment, d'après ce que j'ai compris, le cas de la femme infidèle du roman de
Christine Saignier. Ouais.
Et en fait, apparemment, enfin, elle avait toujours pensé qu'un jour dans sa vie, mais plutôt dans 10, 15, 20 ans, après 10, 15, 20 ans de mariage, peut-être elle serait infidèle, mais comme son mari, mais de façon très ponctuelle, quoi. Mais
elle n'avait pas pensé que ça viendrait si tôt, en tout cas.
Elle avait, en tous les cas, pas pensé que ça viendrait si tôt, et pas du tout que ça puisse être une passion amoureuse et qu'elle puisse être amoureuse en fait de deux personnes.
Parce qu'elle aime, elle aime son mari.
Oui, aussi. Elle aime son mari. Elle vient d'avoir un enfant avec son mari. Elle vient d'acheter une maison avec son mari. Elle est parfaitement heureuse avec son mari, et elle est profondément amoureuse de moi. Et quand on est ensemble, on est ensemble, quoi. Mais on est à distance. C'est-à-dire que moi, je suis français, mais j'habite à l'étranger et je fais des allers-retours. J'habite à l'étranger pour des raisons professionnelles et aussi parce que je ne pouvais pas... c'était trop difficile de rester ici et de ne pas la voir tout le temps. Donc, j'ai prolongé mon séjour à l'étranger parce que c'était insupportable de ne pas la voir à moi, quoi, en fait. Et pour elle, c'était insupportable aussi de savoir que j'étais juste là et de ne pas pouvoir me voir tout le temps.
Mais vous pensez que vous allez pouvoir tenir le coup comme ça longtemps?
Non, enfin, c'est la grande question en ce moment. En fait, là, c'est la rentrée scolaire. Elle vient d'avoir sa petite fille, donc elle laisse maintenant. Elle retourne au travail, elle vient d'acheter sa maison, etc. Donc ça fait quelques temps que je ne suis plus dans son esprit. Façon aussi forte, parce que en fait quand on s'est rencontrés, elle avait du temps. Je veux dire, c'est ça qui est, j'imagine que c'est très souvent le cas dans les relations, c'est quand on a du temps, on a du temps pour découvrir d'autres personnes, et ça a été le cas pour nous. On a eu du temps à passer ensemble, en fait. On a passé tous les jours pendant 6 mois avant de sortir ensemble, 5, 6, 7 heures par jour ensemble, à faire des musées, des restaurants, à se balader, etc. Donc ça nous a donné du temps, et à chaque fois qu'elle est seule, elle me dit qu'elle se sent seule. Et elle se sent seule. Elle m'a dit souvent que quand on est devenu proche, je lui donnais l'impression. C'était une citation de La femme infidèle qu'elle m'avait envoyée, qui disait que l'amant la rendait, lui donnait l'impression d'être vivante. Et c'est des choses qu'elle m'a dit, ça. Mais on a mis longtemps à... En fait, tant qu'on ne s'est pas dit qu'on était profondément amoureux, on n'a pas couché ensemble, en fait. Ça a été physique, mais que beaucoup plus tard.
Et là, la question que vous posez, en fait, Philippe, d'abord, franchement, vous devez en prendre quand même plein la figure. Moi, c'est une situation qui fait sacrément souffrir, mais effectivement, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut aimer deux êtres en même temps, amoureusement, passionnément, Serge Effès?
Si vous voulez, il y a un mécanisme psychique qui s'appelle le clivage et qui fait qu'on peut se couper en deux à l'intérieur de soi. Alors, c'est pas comme si on était une personne, c'est comme si on était deux personnes et que ces deux personnes cohabitent sans beaucoup se rencontrer à l'intérieur de notre esprit, à l'intérieur de notre corps. Donc, une personne est prise passionnément, physiquement, par une relation extraordinaire qui ne se produit par moment, et l'autre partie de soi est prise au quotidien, dans un amour plus tranquille, plus profond, avec des projets, plus de partage, plus de conflits aussi peut-être, avec la personne avec qui on vit. Au fond, et ça tout le monde le sait bien, ce qui tue la passion, c'est le quotidien, mais ce qui la tue, ça ne veut pas dire que c'est un drame, c'est ce qui l'a fait se transformer. Dans les plus beaux romans, dans Belle du Seigneur, quand les deux amants savent que leur passion va commencer à s'éteindre, ils préfèrent se tuer plutôt que de vivre cette transformation. Donc la vie quotidienne avec quelqu'un, c'est autre chose que les moments extraordinaires qu'on partage par moments et sur lesquels on fantasme beaucoup quand ces moments-là ne sont pas là. Christine Sagnier parlait d'autre chose tout à l'heure, d'un autre type de clivage qui est de mettre d'un côté la vie sexuelle et puis d'un autre côté la vie quotidienne et la vie amoureuse. Ça se fait aussi de plus en plus, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on dépassionnalise la vie sexuelle, que ça devient quelque chose de plus, presque comme une gymnastique, on va dire, quelque chose pour l'entretien du corps.
Mais elle est assez, froide, finalement, votre Claire du roman.
Je pense qu'elle est perdue, en fait. Je pense qu'elle va justement à droite, à gauche, parce qu'elle a l'impression de trouver une solution. Ça pourrait être finalement l'alcool ou autre chose. Et puis là, elle semble froide parce qu'elle est mal. Je pense que parfois, en fait, quand on est très très mal, on peut sembler désagréable. En fait,
elle a des regards sur son mari. Alors évidemment, je sais pas si jusqu'à quel point il s'en rend compte, mais qui sont terribles. Elle le voit tassé. D'abord, ça c'est frappant. Il est tassé. Bon, en général, alors qu'il est plutôt séduisant quand même.
Oui, mais elle a eu tout le temps de le scruter, et comme elle ne travaille pas, et que je pense que c'est une femme justement qui a renoncé d'une certaine manière à tous ses désirs, justement, elle a tout le temps de le regarder et peut-être de lui en vouloir, de lui continuer sa vie, avoir une activité professionnelle, une reconnaissance aussi. Et donc, elle l'observe toujours. Et ce qui était charmant, tendre au début, elle le voit de façon insupportable tout d'un coup.
Françoise, vous êtes là, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Françoise.
Je dois être encore un exemple de clivage, mais du côté de la femme, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt très fidèle. Tout le temps, même très fidèle. Je suis depuis plus de 10 ans avec mon mari, et puis j'ai rencontré une personne dont je suis tombée amoureuse, qui est devenue mon amant. Et puis petit à petit, avec beaucoup de culpabilité, je suis rentrée dans cette relation. Puis cette relation s'est nourrie de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui où je suis vraiment, j'ai deux vies. Donc deux vies pleines et entières puisque je me déplace. Une vie avec mon mari que j'adore, sans frustration, et une vie pleine et entière avec mon amant. Comme s'ils épousaient chacun des facettes très différentes de moi. Et que les deux sont nécessaires, mais la culpabilité monte, et c'est vrai que je me sens aujourd'hui à l'approche de faire un choix. Et dans la situation, si je fais ce choix, c'est un peu comme l'arrêt de la cigarette, quoi. Je peux le faire avec mon cerveau gauche et ma logique, mais j'ai beaucoup de mal à le faire avec mon cœur. Donc c'est très inconfortable, mais c'est effectivement un écartèlement permanent. C'est très inconfortable, mais en même temps très confortable aussi. Enfin, j'aime ces deux vies. Et j'aime sincèrement et l'un et l'autre. Et vraiment très sincèrement. Donc je me pose la question, est-ce que le problème est sûrement chez moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me réunifier, entre guillemets?
Oui, Serge Eiffez.
c'est une question très, très difficile, Françoise, parce que justement, comme vous l'avez bien compris, comme vous l'avez bien senti, vous avez eu besoin de vous dissocier, de vous séparer, de vous cliver pour pouvoir vivre quelque chose que vous ne pouviez pas vivre avec votre mari, qui était un état plus passionnel, plus fusionnel, peut-être plus charnel, je ne sais pas, avec quelqu'un d'autre. Donc la seule façon de vous réunifier serait de pouvoir éventuellement vivre ces deux états avec la même personne dans la réalité. Mais là, ça n'est plus le cas dans votre histoire. Donc, comme vous le dites aussi, le problème qui surgit, si on pouvait se cliver parfaitement, être deux personnes à l'intérieur de soi, dont chacune a sa vie, après tout, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui surgit? C'est la culpabilité. La culpabilité surgit pourquoi? Parce que justement, l'infidélité, ça n'est pas seulement et même rarement quelque chose qui pose problème autour de l'infidélité sexuelle, mais autour de l'infidélité de l'intimité, autour de l'infidélité morale. Et on veut tout partager avec quelqu'un, c'est-à-dire tout son intérieur, dire tout ce qu'on pense, dire tout ce qu'on a dans la tête, exprimer toutes ses émotions, et on s'aperçoit qu'on ne peut pas. Donc on exprime certaines choses avec l'un et certaines choses avec l'autre, et il y a un moment où effectivement c'est insupportable. Parce que c'est insupportable, c'est comme si on avait un seul bras ou un seul jambe, ou une seule jambe. On ne peut pas se sentir comme un individu entier.
Mais ça veut dire effectivement que c'est une question de morale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à,
oui, mais
à
mais
ça. C'est parce que c'est un bain judéo-chrétien. Mais non, mais c'est
oui,
quoi
oui, je veux dire, oui, de morale, c'est... mais pas de morale au sens justement judéo-chrétien, au sens de celle qui écrasait Madame Bovary à l'époque de Flaubert. C'est plus une morale intime, une morale de l'intime, c'est-à-dire que maintenant, autour du couple, autour du mariage, et il y a un engagement qui est un engagement personnel, qui est un engagement de soi comme personne, au-delà de tout ce qui est la société, la religion, etc. Et donc, on a envie d'être entier psychologiquement pour pouvoir acquérir une estime de soi, pour pouvoir se sentir droit quand on marche, pour pouvoir se sentir justement entier. Et c'est là où le fait d'être un peu amputé d'une partie de soi devient insupportable.
Claude est en ligne. Bonjour Claude. Claude ? Allô, allô ? Claude ? Claude nous a appelé de Limoges. Vous êtes là ?
Allô ?
Allô Claude ?
Oui, je suis là.
Voilà.
Oui, je suis là.
Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Eh bien, moi j'ai une conception particulière de la fidélité. Je suis marié pour la troisième fois. J'adore ma femme. J'ai trois enfants. Et je suis infidèle. J'ai toujours été infidèle et je suis incapable d'être fidèle. Et le pire, c'est que je culpabilise pas.
Vous voudriez bien culpabiliser ?
Pardon ?
Vous voudriez culpabiliser ? Vous
ben sentir... Non. Je trouve ça presque naturel dans la mesure où je fais du mal à personne, bien au contraire. Et surtout, je me sens clean, quoi. Je veux dire, j'aime pas faire du mal aux gens, donc j'ai pas l'impression d'en faire du fait que ma femme le sait pas. Et je suis très honnête avec les gens à qui j'ai des relations, parce que je leur annonce la couleur dès le départ, en disant que je suis marié, que j'ai un enfant, que tout va bien, et qu'en fait, j'aime bien les gros câlins, mais que ça s'arrête là, qu'il faut pas s'imaginer qu'il y aura autre chose. Et lorsque, malheureusement, quelquefois, ça arrive, que la personne en face s'amourache un peu plus, je dis, stop, halt, rappelle-toi ce que je t'ai dit au départ, il va falloir qu'on se voit un peu moins. Je considère pas avoir de maîtresse, quoi. C'est-à-dire, je suis incapable d'assumer une vie, une double maîtresse, femme, je sais pas faire.
Non, mais évidemment, vu raconter comme vous le faites, c'est formidable, c'est l'idéal. Sauf que déjà, à partir du moment où, quand vous dites que quelqu'un peut s'amouracher, c'est-à-dire la maîtresse, entre guillemets, de passage peut s'amouracher, alors vous dites que vous n'aimez pas faire souffrir les gens, là, vous faites souffrir.
Je fais souffrir, mais j'ai pas l'impression de faire souffrir, dans la mesure où j'étais très honnête. Et d'ailleurs, j'ai une vie affective très, très mouvementée. J'ai fait 15 ans de boîte de nuit, enfin bref. Et en fait, j'ai jamais vraiment eu d'ennui avec mes relations. Ça s'est toujours bien passé. J'ai une recherche plutôt d'amitié avec mes relations. Et comme j'ai une approche avec les femmes d'amitié qui se transforme bien souvent en faisant l'amour, eh bien, je sais pas, j'ai une relation spéciale avec les femmes. Et généralement, je préfère ne pas faire que ça finisse mal. Donc ça finit toujours par de l'amitié, par de l'affection, même lorsqu'il n'y a plus de relation et tout. C'est plutôt
quelque chose de joyeux. Mais si votre femme venait à l'apprendre, qu'est-ce qui se passerait ?
Ça se passerait très mal.
Ouais.
Ça se passerait très mal, mais bon, je suis... Je pense pas trop idiot, je le fais très loin de chez moi, j'ai la chance d'avoir un job où je voyage pas mal et je cherche pas la facilité comme certains le font et auprès de chez soi, les amis et tout ça, non, ça c'est pas mon truc. J'évite les ennuis vraiment, j'essaie d'éviter les ennuis au maximum et puis ce que je comprends pas aussi c'est les gens qui galèrent dans leur esprit par rapport à tout ça. Parce que bien souvent bah, ils sont pas honnêtes au départ, quoi. Je veux dire, moi j'ai pas d'ennuis parce que je suis honnête, quoi. Et les gens, en fait, se créent des problèmes où il n'y a pas lieu de s'en créer, en fait. Et puis, pour en revenir à la fidélité, je pense qu'une femme, eh ben, elle peut pas être fidèle, quoi. Si elle tombe sur, ça va être très prétentieux, ce que je vais vous dire. Si elle tombe en face d'un type comme moi qui a vraiment envie d'elle, même si elle est fidèle, à mon avis, au bout d'un certain temps, elle va craquer, quoi.
Et votre femme, juste une dernière question, c'est peut-être qu'elle, elle a dans sa vie un autre Claude, un homme
peut-être,
comme vous, dont elle est tombée amoureuse un peu.
Peut-être, j'y
pense. Ça vous est égal.
J'y pense, mais bon, ceci étant dit, c'est la vie, on prend des risques, il faut savoir les prendre. Ouais. J'essaie d'être le mieux possible avec mon épouse, en famille, tout se passe bien, j'ai pas l'impression qu'elle soit malheureuse, bien au contraire. Elle m'a connu un peu comme ça, quoi. Elle m'a connu un peu dans un... Elle savait que j'étais pas quelqu'un de très fidèle.
Bon, elle connaissait l'oiseau. Elle vous a épousé l'oiseau. En connaissance de cause. Merci Claude de ce témoignage, parce que c'est intéressant, Serge Eiffel. J'imagine que des hommes comme Claude, vous devez en rencontrer aussi beaucoup au sein de votre cabinet, non ?
Oui, ou dans la vie courante, que finalement, Claude, il a l'air bien dans ses baskets. Mmh, mmh. On n'imagine pas qu'il va aller consulter un psy.
Non, peut-être sa femme.
Peut-être sa femme, oui, ou peut-être une de ses maîtresses un peu détruite par ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il illustre bien aussi une réalité, c'est que il y a quand même une différence, malgré tout, malgré l'évolution des mœurs et l'égalité des sexes, il y a quand même une différence qui reste assez importante entre les hommes et les femmes par rapport à cette question de l'infidélité, et surtout par rapport à la façon dont les hommes peuvent cliver justement leur vie sexuelle de leur vie amoureuse et de leur vie affective.
C'est pas une tarte à la crème, ça. Vous pensez que c'est vraiment une réalité.
C'est pas une tarte à la crème. Les hommes s'engagent plus facilement, de façon moindre sur le plan affectif, lorsqu'ils ont une relation sexuelle. Ça, c'est quelque chose qui reste, même si de plus en plus de femmes arrivent aussi à être dans ce processus, on va dire, de, entre guillemets, sexualité sans sentiment.
Comme Claire, le cas dans le roman de
votre héroïne. Mmh. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est un processus qui est plus difficile pour les femmes, parce que les femmes continuent d'utiliser leur vie imaginaire différemment des hommes. Les hommes, et ça se voit dès la maternelle, hein, dès que les enfants sont tout petits, les hommes sont plus facilement dans l'action, dans la pensée opératoire, dans ce qu'ils vont faire, dans ce qu'ils vont agir, et les femmes sont plus facilement dans un regard sur elles-mêmes, dans un regard sur leur psychisme, dans un regard sur leur intimité. Et donc, une femme qui a une aventure, elle va y penser. Elle va revenir dessus psychiquement. Elle va commencer à imaginer des choses. Et si j'allais plus loin avec lui, qu'est-ce qui se passerait ? Elle va y penser, ça va envahir ses rêves, etc. Et donc, ça va prendre une place beaucoup plus grande. Comme le disait l'auditrice précédente, Françoise, ça occupe sa vie, ça occupe de l'espace. Un homme, il peut plus facilement le mettre de côté et l'oublier.
L'infidélité au programme d'Alter Ego jusqu'à 11h en compagnie de Serge Eiffel, dont je vous rappelle qu'il est psychiatre, et de Christine Sagnier, qui est auteure d'un premier roman intitulé « Infidélité ». Pour nous joindre, 01 45 24 7000.
Ils n'ont plus rien à se maudire. Ils se perforent en silence. La haine est devenue leur science. Les caries sont devenues leur rire. L'amour est mort, l'amour est vide. Il a rejoint les goélands. La grande maison est livide, les portes claquent à tout moment. Ils ont oublié qu'il y a peu, Strasbourg traversé en riant, leur avait semblé bien moins grand qu'une grande place de banlieue. Ils ont oublié les sourires qu'ils déposaient tout autour d'eux. Quand je te parlais d'amoureux, c'est cela que j'aimais décrire. Vers midi s'ouvrent les soirées, qu'ébrèchent quelques sonneries. C'est toujours la même bergerie, mais les brebis sont enragées. Il rêve à d'anciennes maîtresses. Elle s'invente son prochain amant. Ils ne voient plus dans leurs enfants que les défauts que l'autre y laisse. Ils ont oublié le beau temps où le petit jour souriait quand il lui récitait Hamlet nu comme un ver et en allemand ils ont oublié qu'ils vivaient à deux, ils brûlaient mille vies. Quand je disais belle folie, c'est de ces deux que je parlais. Le piano n'est plus qu'un meuble, la cuisine pleure quelques sandwichs, et eux ressemblent à deux derviches qui toupient dans le même immeuble. Elle a oublié qu'elle chantait, il a oublié qu'elle chantait. Ils assassinent leur nuitée en lisant des livres fermés. Ils ont oublié qu'autrefois ils naviguaient de fête en fête, quitte à s'inventer à tue-tête des fêtes qui n'existaient pas. Ils ont oublié les vertus de la famine et de la bise quand ils dormaient dans de valises. Mais nous, ma belle, comment vas-tu? Comment vas-tu?
Ce connard qui baisse chaque cul qui passe, elle a eu coupé, moi, un jour.
Fais gaffe, c'est toi qui vas te couper. Enfin, faut ce qu'il faut. Hein.
Non, mais c'est vrai à la fin. Pas un jour comme aujourd'hui, pas sous mes yeux. Il va me tromper avec cette nouvelle. Si t'avais vu comme il la tenait dans la rue. Pourquoi, mais pourquoi il me fait ça à moi? Est-ce que je le trompe, moi? Ma mère m'avait bien dit de pas épouser un rétable.
Ah, ça, rien de voir un bon juif libanais, c'est sûr. Ça, c'est du fidèle. Ça, c'est du solide.
C'est ça. Fous-toi de moi, toi aussi.
Je me fous pas de toi, je te fais juste remarquer que tu t'es trompé d'homme, c'est tout. Remarque, on peut le comprendre, elle est vraiment bien foutue. Hein. Puis c'est un coup d'enfer.
Salaud. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi tu les as laissés partir ensemble? Tu sais bien comme il est coureur.
Adultère, mode d'emploi de Christine Pascal avec Karine Viard et Richard Berry. Odile nous a appelé. Oui. Bonjour Odile.
Oui, bonjour Patricia, bonjour monsieur, madame et à chacun.
On vous écoute.
Voilà. En fait, moi, quand j'ai entendu l'intitulé de l'émission ce matin, il m'est revenu une citation d'un journaliste ou d'un écrivain, je ne sais plus. Et en fait, c'est la suivante. Je préfère faire plein de choses différentes avec la même femme que toujours la même chose avec des femmes différentes. Et ça m'a beaucoup touchée, en particulier de la part d'un homme, puisque c'était un journaliste ou un auteur homme.
Ouais.
Et en fait, ce qui me touche là-dedans, c'est... Ce que je peux entendre derrière la phrase, c'est l'idée de construire, de durer, et que ensuite la notion de construire en profondeur, c'est-à-dire que la relation, effectivement, elle évolue, mais elle évolue dans la profondeur. Moi, j'entends ça derrière ces mots-là. Et aussi le fait de plein de choses différentes, pour moi, ça évoque l'intérêt. Ça veut dire la diversité des choses qu'on peut vivre, la variété des choses, donc le contraire de la monotonie et de l'usure. Et je trouve ça intéressant. Ceci étant, je pense que c'est la vie de couple en général et la fidélité, entre autres aspects de la vie de couple, je crois que c'est très difficile. Et la question que je voudrais poser, c'est un petit peu où est-ce qu'on apprend en général à communiquer? À échanger avec l'autre, et en particulier avec l'autre si important que peut être le compagnon ou le conjoint, voire les enfants. Et je pense que c'est un cruel manque actuel. Et j'ai envie de dire au ministre de l'Éducation, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Est-ce que c'est de savoir plein de choses ou c'est de savoir être avec les autres et les plus chers qu'on a? Et j'ai vraiment le sentiment qu'on est en grand manque d'apprentissage, de savoir-être et de savoir-être avec. Et je crois que c'est une des choses fondamentales qu'on devrait apprendre pour durer.
Vous avez raison, Odile. Où est-ce qu'on peut apprendre? On peut apprendre aussi dans les livres, et notamment, Serge Hefes, dans La danse du couple, vous expliquez bien comment le couple, précisément, n'est pas un état, mais eh bien un processus, donc quelque chose qui évolue, mais qui évolue pas tout seul, même si on est 1 plus 1, c'est-à-dire les deux êtres qui s'aiment plus le troisième élément qui est le couple, mais on le fait évoluer ce couple.
Oui, tout à fait. C'est vrai que dans ce livre, je vais tout à fait dans le sens de ce que dit Odile, c'est-à-dire que c'est pour ne pas considérer le couple comme un état statique, comme un état de fait, qui est là juste la réunion de deux individus immuables qui vont rester pareils tout au long de leur rencontre, mais au contraire, le couple comme une instance qui leur permet de changer, qui leur permet de bouger, qui leur permet d'évoluer, qui leur permet de réparer certaines choses, qui leur permet d'en transformer d'autres. Et toute la vitalité d'un couple tient à ça. Hein. Cette phrase que vous citez, que je ne connaissais pas, est merveilleuse. Faire des choses différentes avec la même femme, justement, tout est là. C'est-à-dire jusqu'à quel point on peut s'autoriser à être curieux, à avoir envie de découvrir des facettes différentes de l'autre, qui vont permettre de découvrir des facettes différentes de soi-même, plutôt que d'enfermer l'autre toujours dans le même scénario où il va devenir finalement caricatural et il va perdre toute sa créativité.
Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe, Christine Sagnier, au sein de ce couple composé donc par Claire et par Marc? Est-ce qu'une fois pour toutes, ils n'ont pas renoncé l'un et l'autre à regarder, à voir l'autre autrement précisément pour lui faire des reproches dans ses petites... dans le travers des petites habitudes quotidiennes, quoi.
Ah si, c'est tout à fait
c'est
ça.
C'est dommage.
Oui, c'est vraiment dommage. Mais je pense que ça part aussi d'un accident de parcours dans leur vie, la naissance de jumeaux difficiles. Marc en veut à sa femme de s'être comportée pour lui de façon extravagante, avoir continué à travailler. En mettant finalement en jeu la vie de ses enfants et elle renonce après coup à son travail, donc à sa passion, et elle se trouve enfermée là-dedans. Ils n'en ont jamais parlé.
Mais c'est ça, ils ne se parlent pas.
Ils ne se parlent pas.
Ils se parlent pour le strict nécessaire.
Voilà.
Hein, vraiment, ouais. Passe-moi le sel, c'est grosso
oui,
modo, c'est ça.
Oui, c'est
hein.
Un peu ça. Et du coup... les choses sont impossibles, en fait, ça ne peut pas évoluer. Mmh. Donc, ils ont évolué, enfin, elle, finalement, n'a pas tellement évolué, puisqu'elle est restée sur cette amertume à ne pas faire de la musique, donc à ne pas vivre, à ne pas avoir une vie à part entière, puisque je pense qu'en fait, dans le couple, il faut chacun sa vie, puis sa vie de couple. Et donc, ils n'ont même pas, alors, et bon, lui a sa vie, effectivement, mais de vie de couple, il n'y en a plus, puisqu'ils n'ont pas évolué de la même façon. Enfin, en même temps, en tout cas.
Ils ont le 1+1, mais ils n'ont pas le voilà. 1+1+1.
Donc, oui, voilà,
on parle,
c'est ça.
Serge Eiffel, ouais, ils ne sont pas trois. Marianne, vous êtes là, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Marianne.
Je suis un peu, tout d'abord, étonnée de réaliser combien ce sujet est banal et très étonnée aussi d'être au bout du fil aujourd'hui. Simplement, mon histoire personnelle, c'est que j'ai appris il y a quelques semaines par la bouche de mon compagnon qu'il avait rencontré quelqu'un et s'est passé la nuit avec cette personne quelques jours avant. Sur ce, il m'a dit qu'il me quittait et donc on s'est revus. Nous avons un enfant, donc on s'est revus pour essayer de garder un peu un contact comme ça à trois avec notre enfant qui est encore petit. Et nous avons beaucoup parlé, donc très vite, mon compagnon est un peu revenu sur ses propos de rupture en me disant que j'étais effectivement bien la femme de sa vie et qu'il était complètement perdu. J'ai jamais été une intégriste de l'union durable, enfin, je ne me faisais pas spécialement d'idées sur combien de temps est-ce que j'allais rester toute ma vie avec cette personne. Mais je m'aperçois aujourd'hui que son infidélité me blesse énormément et que j'ai vraiment du mal à l'accepter, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il ne sait pas où il en est et qu'il est peut-être effectivement encore amoureux de cette personne. Donc cette idée m'est insupportable et comme mon compagnon ne se décide pas vraiment à partir, j'ai l'impression que c'est à moi un peu d'assumer cette rupture et je trouve ça... particulièrement injuste et difficile, donc voilà.
Et comment faire, Serge Eiffel, pour qu'effectivement un parcours chaotique comme ça, à un moment donné, ne débouche pas forcément sur une rupture, et comment faire une richesse, finalement comment...
Oui, c'est effectivement toute la question que pose Marianne. Moi, j'ai le sentiment, à travers le petit témoignage qu'elle nous livre, que le problème de ce couple, ce n'est pas cette infidélité que cet homme a traversée, mais tout ce que cette infidélité révèle peut-être comme difficulté qui existait entre eux. Et donc comment faire justement pour continuer, c'est de sortir de l'idée que l'infidélité, elle appartient à celui qui est infidèle. Bien sûr, c'est lui qui le commet, mais est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'un acte ou d'un symptôme du couple, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que cette infidélité vient révéler quelque chose dans le couple qui ne peut plus évoluer, qui ne peut pas se dire, qui ne peut pas se partager. Je ne vous dis pas que toutes les infidélités sont de cet ordre-là, et Claude tout à l'heure, il nous racontait de façon tout à fait vitalisante ces infidélités, mais dans d'autres situations, ça peut être ça. C'est-à-dire, c'est une insatisfaction, une insatisfaction qui ne peut pas se dire, qui ne peut pas se partager. Et poser l'infidélité, ça peut être une façon de dire, notre couple est dans une ornière, il y a quelque chose qui ne va plus, il y a quelque chose qui ne nous nourrit plus. Comment faire pour avancer?
On sort des ornières.
Bien sûr,
on peut sortir des ornières.
Absolument.
Jean-Marc. Jean-Marc,
bonjour,
vous êtes là?
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Écoutez, je pourrais presque être le mari de l'auditrice précédente parce que je me trouve un peu dans cette situation où j'ai été infidèle. Je l'ai dit à ma femme parce que je ne pouvais pas le garder pour moi. Et je considérais que ça faisait un peu symptôme chez moi, quoi, justement, d'un problème dans le couple. Et je voulais qu'on en discute. J'avais proposé à l'époque, ça fait un an, hein, à ma femme une thérapie de couple qu'elle avait refusée. Et aujourd'hui, je me sens écartelé entre deux personnes et j'aimerais beaucoup, avec cette thérapie de couple, arriver à restaurer quelque chose. C'est très, très difficile. C'est vrai, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans l'émission qui est très intéressante et évidemment, je me suis retrouvé dedans. Ce désir, cet engouement d'aller voir ailleurs, mais qui, chez moi, faisait symptôme quoi, d'un problème dans le couple. J'aurais bien aimé qu'on mette le doigt sur ces difficultés-là. Ça fait 22 ans qu'on se connaît, 19 ans de mariage. Je pense qu'on n'a pas été assez vigilants, qu'on n'a pas su réinventer un petit peu notre amour. Et puis, il y a l'usure hein, de la vie quotidienne, etc. Et aujourd'hui, moi, je me considère un peu comme dans une impasse. Il y a une charge de culpabilité très forte pour moi parce qu'il y a le problème de parentalité qui se pose aussi pour moi. Mes enfants me manquent. Ils ne sont pas au courant de notre histoire, évidemment, dans les détails, mais je me sens un peu minable quoi dans cette histoire là quoi. Et c'est vrai que le désir, l'engouement qu'on peut sentir pour quelqu'un, cette espèce de liberté qui souffle, c'est bien, mais c'est bien un temps quoi. Ça se fait au prix d'un sacrifice, je trouve, assez lourd quoi, de la perte d'une famille fondée, d'un cercle d'amis bien établi. Voilà, faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'admire beaucoup la personne qui a téléphoné tout à l'heure en disant qu'elle a des convictions, elle sait qu'elle est infidèle, elle y arrive, elle se pose pas de problème. Bon, moi, j'en suis pas là, quoi. Voilà. Alors, à la fois, c'est une histoire très banale, mais c'est vrai que quand ça vous arrive, c'est quelque chose d'assez difficile.
Exactement. Et forcément, à un moment ou à un autre, ça arrive, on peut dire, quasiment à tout le monde. Serge Eiffel.
Oui, enfin, ce qui arrive à tout le monde, c'est que les couples traversent des crises. Mmh. Forcément.
Qui sont pas forcément, ça se traduit pas forcément.
Ça se traduit pas forcément par une infidélité. Mais... ça peut se traduire par tout un tas d'autres choses, voire même par des dépressions ou des éléments psychosomatiques ou des choses comme ça. Mais tous les couples traversent des crises. Donc la crise, ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe. Ça ne veut pas dire qu'on se dispute toute la journée. La crise, ça veut dire qu'on doit transformer la relation pour arriver à un autre état qui soit plus satisfaisant pour les deux partenaires. Et c'est vrai que je dirais que le symptôme majeur de la crise, c'est tout de même l'infidélité, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qui permet de s'échapper, c'est ce qui permet parfois de se renarcissiser, de se ressentir bien dans sa peau, de retrouver de l'estime de soi-même. Et donc, l'infidélité apporte tout ça. Mais après, comme c'est le cas pour Jean-Marc, jusqu'à quel point cet événement peut être ou pas réintégré dans la vie conjugale? Moi, en tant que thérapeute de couple, j'ai été très sensible à ce qu'il a dit, justement, de ces tentatives pour essayer de restaurer la relation avant l'infidélité. Pourquoi est-ce que sa partenaire ne l'a pas suivi dans cette démarche? Ça aurait été très, très intéressant qu'il puisse remettre un certain nombre de cartes sur la table. Peut-être que ça aurait évité le drame dans lequel ils sont aujourd'hui.
Et un autre élément du puzzle de vie dont Jean-Marc parlait, ce sont les enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, les uns et les autres qui nous écoutaient, ce film sur la route de Madison avec Meryl Streep et Clint Eastwood. Ils tombent fous amoureux l'un de l'autre, mais Meryl Streep, elle a des enfants. Et ces enfants, à la mort de leur mère, c'est d'ailleurs par ça que le film commence, ils découvrent en même temps des tas de choses d'une vie cachée de leur maman, et notamment cette infidélité.
J'ai jamais trompé Betty. Pas depuis que nous sommes mariés.
Tu en as eu envie ?
Oh, juste un millier de fois. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ce qui n'est pas assez bien pour maman est assez bien pour moi.
Ce qui m'embête, c'est que j'ai plus de 40 ans. Que je me retrouve enfermée dans ce putain de mariage depuis plus de 20 ans, parce que c'est comme ça qu'on m'a élevée. On doit être intransigeant, il n'est pas envisageable de divorcer. Je ne me rappelle pas la dernière fois où mon mari m'a fait l'amour si intensément qu'il m'a transportée jusqu'en Afrique, mon un chien. Franchement, ça n'a jamais dû lui arriver. Et je découvre maintenant qu'entre deux biscuits secs, ma mère était une vraie Anaïs Nin.
Mais tu penses à moi? Je me sens vraiment mal. Comme si elle m'avait trompée, et non papa. C'est pas dingue. Tu sais, quand tu es fils unique, tu te sens, en quelque sorte, le prince du royaume. Et au fond de ton esprit, tu es convaincu que ta mère ne devrait plus avoir envie de faire l'amour puisqu'elle t'a, toi.
Tu as raison, c'est dingue.
Si elle souffrait tellement, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie ?
Voilà les questions que se posent les enfants sur l'infidélité de leur mère. Nathalie, vous êtes là, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis assez émue de vous parler. J'ai eu cette impulsion de téléphoner, mais ça m'est en fait assez difficile de témoigner. Donc moi, je suis une femme de 37 ans et j'ai été témoin de plusieurs infidélités de mon père à l'égard de ma mère. Et en fait, je ressens que c'est quelque chose qu'il me faut continuer à porter. Comment dire ? J'ai essayé beaucoup de protéger ma mère par le secret, par le fait de ne pas parler. Et après, dans ma vie de femme, j'ai comme une torture morale avec ça. Donc, en fait, mon témoignage, c'est... Bon, je pense qu'il y a des histoires d'adultes, mais je crois que les adultes doivent faire très attention à protéger les enfants pour que les enfants ne soient pas des témoins.
Mais on vous sent très, très émue, Nathalie. Serge Éphèse, effectivement, c'est un élément à prendre en compte.
Oh oui, c'est vraiment l'émotion de Nathalie, bien des années après, semble-t-il, est à la mesure de ce que les enfants éprouvent dans ces situations-là, où ils se trouvent, on pourrait dire, parentifiés, c'est-à-dire qu'ils se trouvent à occuper une place d'adultes qu'ils n'ont pas occupée à ce moment-là et à devenir... Les enfants, ils vont très, très naturellement, très spontanément vers le parent le plus faible, hein, et sentir qu'un parent est en position de faiblesse, ça les fait se sentir, eux, en position de force. Tous les petits garçons ont envie d'être des chevaliers qui vont sauver leur maman. Toutes les petites filles sont très proches de leur mère et de leur père. Et s'ils les sentent mal, eh bien, ils sont là pour les aider. Mais c'est au détriment de leur propre épanouissement, parce qu'ils se mettent à vivre des expériences, à ressentir des émotions et des sensations qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas des expériences de leur âge et qui sont donc incompréhensibles et qui les écrasent et qui empêche complètement leur vie psychique de se développer harmonieusement. Et on voit bien, en écoutant Nathalie, quel préjudice ça peut être, 10 ans, 20 ans, 30 ans, putain, ça peut amputer complètement une existence.
Alors que si on l'apprend une fois qu'on est adulte, si tant est qu'on l'apprenne un jour, comme c'était le cas dans le film La route, sur la route de Madison.
Oui, on peut faire la part des choses, on peut se dire on le comprend mieux, on peut se dire que peut-être, voilà.
Et puis on n'en est pas complice, voilà. Alors que forcément, si on le sait, on a
la... Tout à fait, on doit prendre parti, on doit haïr l'un par rapport à l'autre. Encore une fois, on doit éprouver des sentiments qui ne sont pas les siens.
Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Pierre.
Donc voilà, j'aimerais apporter en fait un témoignage comme quoi il n'y a pas en fait que la trahison physique, entre guillemets, qui peut être importante au niveau de... Quand on trompe quelqu'un, il m'est arrivé justement d'être infidèle, mais d'être infidèle en fait plus sentimentalement que physiquement. Et je pense en fait que la douleur que ça soit pour moi ou pour ma compagne, a été d'autant plus difficile en fait à vivre et d'autant plus intense en fait que si ça avait été en fait une histoire d'un soir.
Vous pensez que c'est une vraie différence ?
Je pense qu'il y a une véritable différence, puisque une histoire d'un soir peut s'excuser, alors qu'un sentiment amoureux dirigé vers une autre personne que son compagnon est forcément en fait grandi et une espèce de maturation, et donc parce que forcément on n'aime pas comme ça à l'instant. Il y a de quoi en fait, comment dirais-je, faire grandir ce sentiment-là pour qu'il arrive à l'amour.
Votre avis, Christine Sagnier ?
Je pense que c'est un petit peu la même chose. Enfin, que je ne sais pas si, m'imaginant dans cette situation, j'aurais du mal à supporter l'un et l'autre, je crois, de toute manière. Je serais assez intolérante, je crois.
Vous êtes vraiment gonflée parce que vous vous défoulez en écrivant
absolument.
Un livre. Vous vous êtes amusée à l'écrire ?
Justement, oui, c'était vraiment un grand plaisir jubilatoire d'écrire ça parce que...
Une façon de se défouler, non, un peu ?
Se défouler, non, je ne sais pas. Non. C'était rentrer dans la vie complètement, enfin, de quelqu'un d'autre, la suivre, imaginer, tout en étant, moi, je pense... pas à l'opposé, j'en sais rien, mais en tout cas me disant que la fidélité c'est important, sachant que je pense qu'on ne peut pas savoir si on sera fidèle toute sa vie. On peut le vouloir, mais on en est sûr à 99%, enfin de soi comme de l'autre finalement, je crois.
Et si la fidélité est un choix, est-ce qu'il faut dans ce cas, Serge Hefez, accepter la frustration qui l'accompagne forcément ?
Mais on est en train de parler là, et j'en suis très heureux, de où commence l'infidélité. Ce dont parlait notre auditeur, c'est cette question de l'infidélité morale, par exemple. Est-ce qu'un homme qui déjeune tous les jours à midi avec une collègue de travail, qu'il estime, qu'il trouve drôle, qu'il trouve sympathique, avec qui il s'amuse beaucoup, est-ce qu'il commet une infidélité par rapport à sa femme ? Ça, c'est des questions qui se posent pour moi tous les jours au cours des thérapies de couple et qui rejoignent cette vision... je dirais presque très puritaine du couple que nous avons à l'heure actuelle, qui est que finalement c'est dans le couple que tout doit se passer sur le plan des sentiments, des émotions, des satisfactions, des investissements. Vous écrivez un livre sur l'infidélité, est-ce que c'est une infidélité à votre conjoint de vous consacrer à cette tâche qui vous absorbe ?
On a le droit d'exister.
C'est une vraie question, jusqu'à quel point chacun des membres du couple a droit à sa propre existence, sa propre autonomie, ses propres plaisirs, sans mettre en danger le couple, mais plutôt avec l'idée que ce qu'il vit d'exaltant à l'extérieur, ça va enrichir la relation, ça va la dynamiser plutôt que l'appauvrir.
Et le choix des mots, évidemment, n'est pas anodin. François nous a téléphoné pour nous dire, il a tout à fait raison, en disant, depuis qu'on est petit, on utilise le mot fidélité pour exclusivité. Donc évidemment, ça culpabilise.
Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que le couple, je dirais, dans la foulée du cinéma américain des années 50, qui était extrêmement puritain autour de ces questions-là, eh bien, il se représente de plus en plus comme étant le lieu unique du bonheur et de la satisfaction. Et à mon avis, c'est ça qui pèse le plus sur lui et qui fait que de plus en plus de couples craquent.
La danse du couple, c'est donc un livre que vous avez écrit, Serge Hefez, avec Daniel Lofer, et publié chez Hachette Littérature. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Christine Sagnier, Infidélité, avec le S entre parenthèses, est publié chez Ballant, et c'est un premier roman. Merci à vous.
Merci.